podcasts de Radio Vatican.
À Charlottesville, dans l'État de Virginie, aux États-Unis, samedi 12 août, des milliers de sympathisants d'extrême droite se sont retrouvés pour une marche au flambeau dans une mise en scène rappelant les torches du Ku Klux Klan. Mais cette fois, le visage à découvert. Suprémacistes blancs de matrice sudiste se revendiquant néo-nazis ou membres de l'alt-right, la droite alternative, ils scandaient que la terre sur laquelle ils marchaient était la leur. Le lendemain, casque sur la tête, bouclier au motif évoquant la croix gammée, ils protestaient contre le retrait d'une statue d'un soldat confédéré. La manifestation a dérapé lorsqu'un homme a projeté sa voiture contre des manifestants antiracistes tuant une jeune femme. Contraint de réagir, le président Donald Trump a renvoyé dos à dos les groupuscules suprémacistes et les contre-manifestants, suscitant le malaise dans son camp politique. Ferrarissime, ses deux prédécesseurs républicains encore en vie, George Bush, père et fils, ont diffusé un communiqué commun appelant l'Amérique à toujours rejeter le racisme et l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes. Face à l'ambiguïté présidentielle, plusieurs entrepreneurs, dont le patron de JP Morgan, ont décidé de ne plus soutenir Donald Trump. Sur les raisons qui poussent le président des États-Unis à entretenir cette ambiguïté et sur le profil de ces blancs en colère, Marie Duhamel a interrogé Francis Langlois, membre de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, à l'Université de Québec, à Montréal.
Disons qu'il y a trois grandes branches dans l'extrême droite américaine. Et par ailleurs, ces trois grandes branches-là s'entrelacent là, assez allègrement dans la mesure où faire partie d'une de ces branches-là n'exclut pas de faire partie de l'autre aussi. Là. Donc, les trois grandes branches sont les suivantes. Évidemment, il y a ce que moi j'appelle la branche suprémaciste, donc les gens qui sont des néo-nazis ou encore le Ku Klux Klan. Donc, les gens qui veulent rétablir une hiérarchie raciale aux États-Unis. Il y a ensuite les gens qui sont des extrémistes religieux, par exemple les gens qui s'attaquent à des cliniques d'avortement, ou encore plus récemment ce qu'on appelle « the Christian identity », des gens qui mélangent, disons, des mélanges racistes avec des mélanges bibliques et qui souvent considèrent les États-Unis comme étant un nouvel Israël où est-ce qu'il faut mener une guerre à la fois religieuse et raciale pour rétablir la pureté de l'État et puis éventuellement préparer le retour de Dieu. Et ensuite, la dernière branche, qui est beaucoup plus récente, celle-là, branche, je qualifierais de anti-État. Donc, ce sont les citoyens souverains, des gens qui rejettent hein, toute forme d'autorité en provenance de l'État, que ce soit de la police ou encore le gouvernement, même les gouvernements municipaux sont rejetés. Donc, ces trois grandes familles-là de l'extrême droite, dans les discours, dans les actions, dans les cibles, s'entremélangent là, les uns et les autres.
C'est des personnes qui se disent anti-immigration, hispaniques en particulier, anti-afro-américains, antisémites. Est-ce que finalement c'est une question raciale ou une question sociale?
Ça va dans les deux sens. Donc oui, c'est une question raciale. Donc il y a certaines personnes qui sont très racistes, qui sont convaincues qu'il faut maintenir la pureté des groupes ethniques aux États-Unis ou n'importe où dans le monde. Mais il y a également des gens qui considèrent qu'il faut y rétablir une hiérarchie raciale dans le pays, mais aussi qu'il faut s'attaquer à des gens qui sont considérés comme déviants, hein, que ce soit des gens qui pratiquent l'avortement ou encore les homosexuels, les transgenres. Certains sont très antiféministes, hein, donc dès qu'on sent que des groupes de femmes sont trop influents, on les attaque. On essaie de minimiser la place des femmes, on veut les ramener à la maison, etc. Donc, il y a des gens qui sont très traditionnalistes hein, jusqu'à un certain point. Donc, oui, effectivement, il y a une composante raciale. Et dans ce qu'on a vu, donc, à Charlottesville, les gens qui étaient le plus bruyants, hein, ceux qui chantaient le samedi soir, ils disaient bien qu'ils vont rester là, ils ne seront pas déplacés. Donc, this is our soil. Donc, c'est notre sol. Donc, ces gens-là, évidemment, considèrent que les immigrants, les groupes ethniques comme les Afro-Américains ou encore même, ils le scandaient haut et fort, donc les Juifs, sont des gens qui viennent voler la terre aux groupes dominants aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, on a vraiment des gens qui sont clairement racistes. Hein, puis, c'est quand même assez rare là, qu'ils vont sortir en aussi grand nombre et crier aussi haut et fort.
Avant de revenir justement sur cette manifestation assez spectaculaire de samedi dernier, quelles sont leurs ambitions politiques ou pas d'ailleurs et leur mode opératoire? On l'a vu quand même, somme toute, très violent.
Ce qu'ils désirent le plus, c'est de devenir des interlocuteurs politiques, sociaux, qu'on va écouter. Ils veulent intégrer la place publique et être reconnus comme des gens qui ont un discours légitime. Ils veulent insérer leurs préoccupations dans le discours politique dominant, c'est-à-dire qu'ils veulent passer à la télé, ils veulent passer dans les journaux, ils veulent passer, bref, dans ce qu'on appelle les médias traditionnels, ils veulent être vus par le grand public et ils veulent être vus par le gouvernement de façon à ce qu'on les reconnaisse. Évidemment, ce sont souvent des groupes qui sont marginaux, peu nombreux, ils sont très divisés. Hein. Il n'y a pas d'organisation qui chapeaute l'ensemble des mouvements d'extrême droite. Hein. Ils sont souvent en chicane les uns contre les autres sur des questions idéologiques ou organisationnelles ou même des questions de tactique ou de moyens d'opérer. Donc, ce qu'ils veulent, c'est chercher des causes qui vont fédérer tous les groupes de l'extrême droite et qui vont faire en sorte qu'ils vont même pouvoir aller chercher un certain appui dans l'ensemble de la population ou à tout le moins faire en sorte que leur discours pénètre la discussion nationale. Donc, dans le cas présent, la question de la protection des monuments confédérés, ben c'est un moyen pour eux d'avoir une cause qui est fédératrice et aussi qui les fait émerger sur le plan national, parce que tout le monde connaît l'histoire de la guerre civile et tous ces symboles-là, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, on les connaît, donc on sait ce que c'est. Donc, ils rentrent dans la conscience populaire. Et donc, ainsi, ben, ils peuvent être reconnus.
Et la violence?
Pour certains, la violence est un moyen légitime. Pour d'autres, ce ne l'est pas. Une chose est sûre, c'est que la marche en fin de semaine a été chorégraphiée et annoncée de façon à provoquer un affrontement et de façon à obtenir qu'on les voit à la télé, qu'on les entende à la radio ou sur les médias sociaux. Il y avait eu une manifestation similaire avec des flambeaux au mois de mai 2017 et ça n'avait pas été particulièrement couvert. Donc, c'est clair que là, ils cherchaient à faire un geste d'éclat, quitte à ce qu'il y ait de la violence. Et puis, ben, finalement, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc, il y a eu de la violence et ils ont été couverts.
Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il y a une hausse des actes racistes et antisémites. Est-ce que vous pensez que, justement, ça a donné du carburant, en quelque sorte, à ces groupes d'extrême droite?
Absolument, absolument. La résurgence de ces mouvements-là s'est faite particulièrement à l'élection de Barack Obama. Donc, on est passé de quelques dizaines de mouvements d'extrême droite à maintenant des centaines. Maintenant, le fait que le candidat Donald Trump ait pris des idées qui traversent l'extrême droite, ce que certains appellent le alt-right, donc l'histoire de l'immigration qui est hors de contrôle, par exemple, donc il les a pris, qu'il les a répétées, qu'il les a publiées, donc évidemment, ça les a encouragés. La façon dont il agit aussi fait que, puisqu'à un certain point, ça encourage ces gens-là à créer des affrontements, et évidemment pire, donc lorsque le président refuse de condamner les actes violents que l'extrême droite a commis, ben évidemment ça encourage ces mouvements-là. Et vous voyez encore, là, il se refuse à parler de terrorisme domestique, alors que son procureur général a clairement dit que c'était un acte de terrorisme domestique, le fait que un jeune homme ait foncé dans la foule avec une voiture. Donc,
pourquoi, selon vous, Donald Trump joue sur l'ambiguïté comme ça?
Parce qu'il y a une partie de son appui aux élections provient de cette nébuleuse-là, donc évidemment pas nécessairement des gens d'extrême droite, mais des gens qui sont un peu à droite, qui partagent un peu ces idées-là. En même temps, il se dit qu'il n'a déjà pas l'appui des gens qui sont contre l'extrême droite. Donc, il n'y a rien à perdre en continuant à les appuyer. Près de lui, il a un conseiller qui s'appelle Steve Bannon, qui est un des acteurs de la renaissance de la droite. Donc, c'est même lui qui a été éditeur en chef du journal en ligne Breitbart News, qui est un des grands vecteurs d'information pour la droite et l'extrême droite. À côté de Donald Trump aussi se trouve un homme qui s'appelle Steve Miller, qui est un rédacteur de discours, mais qui lui aussi a gravité dans cette nébuleuse-là. Et il y a aussi Sebastian Gorka, qui est un autre conseiller à la sécurité, qui a apparemment des liens avec l'extrême droite. Donc, il est entouré de gens qui, jusqu'à un certain point, le tirent vers ça, ou en tout cas, lui suggèrent de ne pas critiquer l'extrême droite ou la droite aux États-Unis, première des choses. Et deuxièmement, j'ai l'impression que pour lui, d'attiser le débat, c'est payant politiquement parce que ça mobilise sa base.
Comment justement est-ce que les Américains perçoivent ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé à Charlottesville?
Moi, j'ai l'impression que la majorité de la population rejette l'approche du président. Je pense que ça ne fait que rajouter de l'eau au moulin pour ceux qui le critiquent. Si on pense aussi en plus que il a lancé des menaces concernant la Corée du Nord. Tout ce que ça montre, c'est que lorsqu'une véritable crise se présente, il est incapable d'agir de façon présidentielle et continue à agir comme une vedette de télé ou en tout cas quelqu'un qui a pas l'air de trop savoir ce qui doit être fait. Donc, je pense pas que la population, d'une façon générale, appuie le comportement du président. Et d'ailleurs, il est rejeté par tous ses alliés politiques, par des alliés d'affaires, et les sondages ne lui sont pas très, très favorables. Gallup, cette semaine, en a publié un, disait qu'autour de 34-35% des Américains approuvait le travail du président. C'est un niveau qui est absolument bas là, en termes d'appui en début de mandat comme ça. Donc, je pense pas que sa stratégie fonctionne très bien. Et une dernière chose, chaque 5 ans, je crois, ou chaque 10 ans, je ne sais plus, l'Université de Chicago procède à des sondages sur différentes questions et utilise toujours les mêmes questions. Et ce qu'on voit, c'est que d'une façon générale, l'ensemble de la population américaine tend à devenir plus progressiste. Hein, donc, ouverture au mariage gay, à l'avortement, contrôle des armes à feu, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont conservateurs. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas certaines régions qui sont plus conservatrices. Tout ce que je veux dire, c'est que l'agenda du président, à mon avis, n'est pas partagé par l'ensemble de la population. Et d'ailleurs, ce qui est démontré par le fait qu'il a perdu le vote populaire.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.